Des épreuves intenses, des éliminations surprenantes, un gagnant que personne n'a vu venir. Quelle première saison à Survivor Québec! À une nouvelle saison, on dit deux claps. Wow! Survivor Québec, lundi au jeudi 19h et dimanche 20h sur Nouveau.
Ce printemps, 20 personnes tenteront de remporter jusqu'à 100 000 $. Parmi eux, des traîtres qui assassineront chaque soir un des invités. Les fidèles réussiront-ils à les démasquer à temps?
Les traîtres, lundi 20h sur Nouveau, nouveau.ca et sur l'application.
Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace qui traite du hockey de la Ligue américaine, du hockey de la Ligue junior majeure du Québec, du hockey de la Ligue Midget 3, des meilleurs espoirs. Au menu aujourd'hui, plein de choses. On va revenir encore sur cette séquence record dans la Ligue Midget 3 des Chevaliers de Lévis. D'ailleurs, je suis allé voir le match des Chevaliers samedi après-midi à Lévis. Une 18e victoire consécutive pour amorcer la saison. On a réalisé une entrevue avec l'attaquant Joshua Roy. On va vous présenter ça un petit peu plus tard. Dans notre bloc sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a plein de choses. On va entre autres s'entretenir avec Jacob Pelletier, attaquant des Wildcats de Moncton. Les Wildcats qui vont très bien par le temps qui court, n'ont pas subi la défaite en temps réglementaire à leurs 11 derniers matchs. Et Jacob Pelletier lui-même, ça va assez bien, merci, depuis le début de la saison, 24 points en 14 matchs. Donc, on va s'entretenir avec lui directement de l'autobus des Wildcats qui va être en route vers le Cap-Breton lorsqu'on va lui parler dans quelques instants. Comme à chaque semaine, on va commencer notre bloc, notre émission avec notre bloc sur le Rocket de Laval, qui, ma foi, continue d'éprouver des problèmes. Ça se répète, là, c'est l'histoire du début de la saison, le Rocket qui n'arrive pas à gagner des matchs, même s'il domine outrageusement au chapitre des tirs au but. Et pour la première fois cette saison, ça me fait plaisir de renouer avec Raphaël Doucette, analyste des matchs du Rocket à la station de radio 91.9. Qui a fait le voyage la semaine dernière, passé quelques jours avec l'équipe à Toronto, la défaite mardi dernier, et samedi, une autre défaite à Rochester. Raphaël, comment vas-tu?
Salut Stéphane, ça va bien toi?
Oui, ça va bien. Écoute, je sais que tu as eu des petits problèmes de santé en début de saison, tu as manqué des matchs, mais là, tout est replacé, là, la voix est revenue, ça va bien?
Oui, tout est correct, une pneumonie qui m'a mis... sur le carreau pendant deux semaines, mais n'inquiète-toi pas, je suis top shape.
Bon, écoute, je disais que tu es allé avec le Rocket cette semaine à Toronto mardi. L'équipe n'est pas revenue à Laval entre les deux matchs, donc on a passé quoi, 4 jours sur la route entre Toronto et Rochester. Si on parle d'abord de ces matchs-là, un revers de 2-1 mardi dernier en prolongation contre les Marlies et un revers de 3-2 samedi contre les Americans de Rochester. Que retiens-tu de ces deux matchs-là?
Ben écoute, ça a été des matchs qui ont été dominés en grande partie par le Rocket de Laval. C'est certain que en début de match à Toronto, face à les champions en titre, les Marlies de Toronto, on a vu vraiment que les Marlies ont dicté l'allure de la rencontre lors des 10 premières minutes. Mais ensuite, le Rocket s'est battu à armes égales face aux Marlies. Et puis, ça a pris un but chanceux quand même de Colin Greening pour donner une avance aux Marlies. Et le Rocket s'est accroché. Et Cale Fleury, qui a probablement été le meilleur défenseur du Rocket lors de ce match-là, a créé l'égalité en fin de match. Et c'est Adam Cracknell là, qui a donné la victoire aux Marlies en prolongation. Un autre ancien du Rocket qui fait mal à son ancienne formation. Ça a été bon pour le Rocket, ce match-là, de pouvoir rivaliser avec les champions en titre. Mais encore une fois, on n'a pas été capable, malgré le fait qu'on a dominé dans la colonne des tirs, d'aller chercher la victoire. Et ça, c'est vraiment le jour de la marmotte depuis le début de l'année. On domine dans les tirs. On a plusieurs chances en avantage numérique. On n'est pas capable d'aller chercher le but qui fait la différence, le but qui pourrait faire mal à l'adversaire. Ça a été encore le cas le samedi à Rochester.
Ben, tu parles du match de samedi à Rochester. Domination de 39-25 dans la colonne des tirs au but, défaite de 3-2. Écoute, les deux samedis précédents, ça a été la même chose. Contre Springfield, à Laval, samedi le 20 octobre, 40-16 dans la colonne des tirs. On sort de là avec une défaite de 4-2 et un but d'un filet désert. Et le 13 octobre, ouais. 41-15 contre Binghamton. On sort de là avec une défaite de 2-1. Là, c'est difficile de... Comment je dirais? L'équipe joue pas du mauvais jeu, mais il faut que les victoires arrivent là, parce que veut pas, on est en train de creuser un trou, mine de rien, là, je sais que c'est en début de saison, il y a seulement que 9 matchs de jouer, puis il en reste 67, là, mais l'équipe est 25e présentement au classement général.
Oui, tu te retrouves quand même à 8 points déjà de la tête de ta division, là, détenue par Rochester, Et puis, tu sais, il y a un manque vraiment de finition au niveau de l'attaque parce que souvent, on récolte plus de 30 tirs au but et on termine la rencontre avec peut-être 2 buts. Tu sais, on dirait que l'absence d'un gars comme Chris Terry, particulièrement en avantage numérique, fait mal. Et pour continuer avec les insuccès là, en avantage numérique, on est quand même 5 en 43 du côté du Rocket. 2 en 12 seulement samedi. Mais l'absence de Matt Tormina également, on l'a échangé à Stockton, l'organisation des Saints de Calgary. Mais Tormina, l'an dernier, sur le jeu de puissance, était le passeur. Et Chris Terry était le tireur. Et là, on est allé chercher Ryan Sproul, le défenseur, l'ancien des Red Wings de Détroit, justement pour relancer en quelque sorte l'avantage numérique. Mais samedi, il n'a pas été vraiment efficace. Ryan Sproul, à son premier match avec le Rocket, avait eu seulement une pratique derrière la cravate avant de jouer pour Joël Bouchard. Donc, on va attendre dans le cas de Ryan Sproul. Mais l'avantage numérique samedi, on dirait que les Americans de Rochester allaient au banc des pénalités, question de donner des chances de victoire et des chances de remonter au Rocket de Laval, mais ont été incapables de capitaliser. Seulement 2 en 12, ça a été vraiment le point tournant de ce match-là.
Le taux d'efficacité des attaquants du Rocket depuis le début de la saison là, est bien en deçà du 10% qu'on cherche au moins à aller chercher. Là, on est à 7,9. 290 tirs au but en 9 matchs. C'est beaucoup de tirs au but. Là. C'est une moyenne de 32 par match. D'ailleurs, ça place le Rocket au 7e rang de la Ligue. Et on a seulement marqué à 7,9%. Là, on a seulement marqué 23 buts. Alors, c'est nettement insuffisant. Ça va en prendre plus de gars comme Byron Fraze, qui a seulement 3 buts en 9 matchs, comme Chaput, qui a 3 buts en 9 matchs. Des recrues, tu sais, Alexandre Alain n'a pas marqué encore. Je sais qu'il a eu des chances. Il joue sur presque toutes les attaques massives. Il n'a pas marqué encore. Alex Belzile, un seul but de marqué depuis le début de la saison. Et c'est un but en désavantage numérique, si je ne m'abuse. Donc, ça va en prendre plus là, pour ces joueurs-là. Là.
Oui, et je rajouterais dans ta liste Alexandre Grenier, hein, qu'on est allé chercher via le marché des joueurs autonomes cet été. Seulement 2 buts pour Alexandre Grenier. Et là, la mauvaise nouvelle pour Grenier, c'est qu'il s'est blessé le samedi à Rochester. En deuxième période, là, a été mis en échec. Et puis, c'est sa hanche droite qui a encaissé le coup le long de la bande. Donc, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que Joël Bouchard va nous dire au sujet d'Alexandre Grenier. Voilà pourquoi peut-être on a rappelé là, Antoine Wakehead et Michael Pezzetta de la Ligue de la Côte-Est un peu plus tôt là, ce matin, lundi matin. Donc, ça prend davantage des attaquants. Est-ce que Byron Fraze est pleinement concentré, lui qui pensait peut-être amorcer la saison avec le Canadien de Montréal? Michael Chaput, une période d'adaptation, lui qui jouait surtout avec les Comets du Utica l'an dernier. Même chose pour Kenny Agostino. Donc, il y a quand même des piliers offensifs qui sont des nouveaux venus et qui ne sont peut-être pas encore totalement à l'aise dans le nouveau système de Joël Bouchard.
Et McCarron a 2 buts depuis le début de la saison et les 2 buts dans le même match. Alors, ça veut dire que dans les 8 autres matchs, il ne l'a pas marqué. Le Rocket, présentement, avec une fiche comme il a au niveau des tirs au but, devrait être plus, devrait avoir un meilleur dossier, on l'a dit. Il y a les gardiens de but aussi, je pense, qui doivent peut-être effectuer le plus gros arrêt. Je sais qu'ils reçoivent pas beaucoup de tirs au but, puis certains vont dire ils sont un peu froids des fois quand ça arrive. Mais là, à 860, total combiné des deux, c'est insuffisant pour Lindgren et McNiven aussi.
Oui, parfaitement d'accord avec toi. La lumière au bout du tunnel, c'est que lors des 2 matchs la semaine dernière, Charlie Lindgren méritait vraiment un meilleur effort. Il a été super bon à Toronto, a été très, très, très solide, même meilleur que son vis-à-vis. Et puis, lors du dernier match, samedi à Rochester, il a commis une bourde derrière son filet qui a mené au but, là, qui a fait 2-1 pour Rochester en 3e période. Mais mis à part cette bourde-là, a été vraiment solide devant son filet. Et c'était la première fois samedi que le Rocket accordait 25 tirs ou plus. Ça, c'est quand même remarquable. Donc, la défense fait le travail. Les gardiens de but sont capables de mieux et les attaquants, surtout, sont capables de mieux. On manque de finition. Il va falloir trouver un moyen, un avantage numérique, de créer plus de mouvement. Tu sais, j'ai un exemple concret en tête. En début de 3e période à Rochester, samedi, un 5-3, on a la chance de mettre le match hors de portée des Americans et de faire 2-0. Et lors du 5-3, ça bougeait pas. Tu avais un gars qui était à droite du gardien de but, Scott Wedgwood, un gars qui était à gauche. Ils n'ont pas touché à la rondelle pratiquement du 5-3. Et c'est Kenny Agostino avec Jake Evans et Brett Kulak qui circulaient la rondelle, mais toujours en périphérie. Il faut être plus menaçant que ça.
Tu voulais me parler également de Daniel Audet. C'est difficile pour lui en début de saison. Il a été rayé de l'alignement pendant un match. Il n'a pas beaucoup de temps de glace. En tout cas, je n'ai pas vu les matchs sur la route, là, mais je sais que dans les premiers matchs à Laval, il n'avait pas nécessairement beaucoup de temps de glace. C'est difficile pour lui présentement.
Ouais, c'est difficile pour lui. Puis ça a commencé dès le camp d'entraînement du Canadien, alors qu'il n'a pas joué du tout de match préparatoire. C'était un signe clair quand même de la direction du Canadien. Est-ce qu'il est encore dans les plans? Faut se poser la question, parce que là, présentement, il joue surtout sur le quatrième trio, souvent à moins de 10 minutes par match. Aussitôt qu'il fait un revirement, il est cloué au banc par Joël Bouchard. Tu le sais, tu le connais, Joël Bouchard, il aime les joueurs fiables, il aime les joueurs qui vont donner vraiment leur 100% à chacune de leurs présences. C'est pas le cas de Daniel Audet présentement. Seulement 5 tirs au but en 8 matchs. Donc, déjà que c'est pas un gars défensif, offensivement, il cherche. Et là, tu vois qu'il joue vraiment avec très peu de confiance.
Si on regarde la semaine qui attend le Rocket, c'est 3 matchs à domicile cette semaine, mercredi, vendredi et samedi. Mercredi, les Sénateurs de Belleville. Vendredi et samedi, les Comets de Utica. Ça, ce sont les deux équipes qui devancent présentement Laval dans la section Nord. C'est le temps là, de remettre l'équipe sur les rails. Là, pas nécessairement qu'elle joue mal, comme on dit, mais il faut qu'on soit plus opportuniste et qu'on réussisse à engranger des victoires cette semaine.
Je pense vraiment que Stéphane, que lors de ces 3 matchs à domicile, ça prend au minimum 2 victoires. Là. Question de se replacer un petit peu dans la course aux séries. Je sais que les séries sont encore très loin, mais on le dit souvent, c'est cliché au hockey, là, mais les points que tu récoltes en début de saison, souvent, te sont très utiles en fin de saison. Donc, il faut pas que la glissade du Rocket se poursuit, parce que oui, on joue bien, mais on a quand même seulement 3 victoires en 9 matchs. Et puis là, Joël Bouchard n'a pas vraiment encore haussé le ton. Il critique pas vraiment ses joueurs, parce que l'effort est là, mais il faut que les résultats suivent.
Effectivement. Ben écoute, on va suivre ça de près. Vendredi, le match est sur les ondes de RDS contre les Comets de Utica, le club école des Canucks de Vancouver qui sera de passage à la Place Belle vendredi. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps, puis on se reparle très, très bientôt.
Merci, Stéphane.
Voilà donc Raphaël Doucette, analyste des matchs du Rocket au 91,9, qui nous parlait un peu des deux matchs que le Rocket a joués la semaine dernière. Moi, j'en viens pas. Là. Une équipe qui domine la Ligue américaine en ce moment avec une moyenne de tirs accordés de 19,8, ça veut dire qu'on donne pas en moyenne 20 tirs par match. On a seulement que 3 victoires en 9 matchs. C'est nettement insuffisant. Avant de parler de la Ligue junior majeure du Québec, peut-être une petite note. La Ligue américaine a fait connaître l'identité de son joueur de la semaine et c'est un ancien de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, un ancien double champion marqueur de la Ligue junior majeure du Québec qui semble être sorti de sa coquille cette semaine. Connor Garland, l'ancien des Wildcats de Moncton, qui s'aligne avec les Roadrunners de Tucson, le club école des Coyotes de l'Arizona. Il a connu un match de 5 points, notamment samedi dernier. Il termine la semaine en 2 matchs avec 2 buts et 5 mentions d'aide. Et il s'est au premier rang des marqueurs des Roadrunners avec 11 points en 7 matchs depuis le début de la saison. Donc, Connor Garland, là, à sa 3e année dans les rangs professionnels, qui commence un peu là, à faire parler de lui et à sortir de sa coquille. Voilà donc pour la Ligue américaine. De ce pas, on va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'était le week-end des rivalités en fin de semaine. Et il y a eu beaucoup de matchs impliquants. Ben, en fait, c'était des séries aller-retour entre des équipes très près l'une de l'autre au niveau géographique. Et ça donne toujours évidemment du hockey intéressant. Moi, j'ai été à Québec hier pour voir le deuxième affrontement en 2 jours entre l'Océanique et les Remparts. Les Remparts qui ont gagné les 2 matchs contre l'Océanique cette semaine. Qui aurait dit d'ailleurs que l'Océanique de Rimouski se retrouverait après 17 matchs au quart de la saison en dernière position de la section Ouest. C'est un peu une surprise décevante pour l'Océanique. 8 victoires, 8 revers et une défaite en prolongation également. Donc seulement que 8 victoires en 17 matchs, c'est pas catastrophique dans le cas de l'Océanique, mais se retrouve présentement derrière Baie-Comeau, Chicoutimi et Québec. Une équipe qui va très bien par le temps qui court, c'est les Wildcats de Moncton, qui n'ont aucune défaite en temps réglementaire à leurs 11 derniers matchs. Les Wildcats, d'ailleurs, qui, avec cette séquence, ont rejoint les Moussets d'Halifax au premier rang de la section des Maritimes. Et pour parler un peu des Wildcats de Moncton, on a pensé retrouver l'attaquant Jacob Pelletier qui s'aligne avec les Wildcats. C'est sa 2e saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Salut Jacob!
Bonjour!
Hey, écoute, corrige-moi si je me trompe. Présentement, vous êtes dans l'autobus en direction du Cap-Breton, c'est bien ça?
Exact.
Bon, ben écoute, c'est le fun que tu prennes un petit 5 minutes pour jaser avec nous en direction de Sydney. Je sais que ce sont des longs voyages. Moncton-Cap-Breton, ça fait quoi, ça? 6 heures à peu près?
Environ 5h30, 6 heures, oui.
Bon, écoute, c'est un match intra-division quand même, 6 heures d'autobus, c'est pas évident. Écoute, je disais dans mon préambule que ça va bien pour les Wildcats présentement. Vous vous retrouvez à égalité avec Halifax au sommet de la section des Maritimes. Est-ce que vous êtes un peu surpris de la façon dont ça se passe pour vous présentement?
Surprise? Je pense que non. Parce que nous, tu sais, on s'attendait en début de saison que on allait être une équipe plus mature que l'an passé. Puis je pense que l'an passé, on a montré des belles choses en série. Puis je pense que on voulait construire sur ça pour cette saison. Donc, je pense qu'on n'est pas tant surpris, là, non.
Toi, personnellement, tu as amorcé la saison sur la liste des blessés. Une blessure subie lors du tournoi Ivan Linka cet été. Tu as raté deux matchs, mais depuis ton retour au jeu, je pense que ça se passe quand même bien. En tout cas, je me fie aux statistiques. J'ai pas eu la chance de voir les Wildcats jouer depuis le début de la saison, là, mais 24 points en 14 matchs, ça va quand même bien pour toi, là.
Non, c'est exact. Puis je pense que c'est le résultat des quatre lignes, en fait, parce que je pense qu'on est une équipe qui est axée sur l'offensive pas mal. Donc, c'est sûr que, tu sais, de jouer avec Jeremy, McKenna et Mikasa qui sont dans. Je pense que McKenna est le premier scoreur, puis Mikasa, il est pas long aussi. Tu sais, je pense que ça m'aide aussi. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, l'an passé, c'était une bonne saison pour nous. Mais là, faut qu'on build sur ça encore. Là.
Ouais, tu parlais de Jeremy McKenna. C'est un gars qu'on connaît pas beaucoup nécessairement du côté québécois de la Ligue. Tu as raison, il est présentement premier marqueur de la Ligue. Quelle sorte de joueur c'est un peu Jeremy McKenna pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer? Là?
C'est un petit attaquant avec beaucoup de vitesse, puis c'est vraiment c'est un sniper, c'est un poison, puis il est capable de bouger le puck très rapidement. C'est vraiment une menace constante sur la patinoire. Puis surtout c'est son jeu en défensive aussi. C'est vraiment un two-way player qu'on appelle, puis qui soit aussi dangereux. C'est vraiment un gros atout pour nous.
On s'entretient avec Jacob Pelletier en direct de l'autobus des Wildcats de Moncton qui est en route pour le Cap-Breton. Je parlais de ta blessure au poignet. Est-ce que c'est complètement guéri? Est-ce que ça te fait peur un petit peu vu que tu ratais le début de la saison? Là, c'est une saison importante pour toi. C'est l'année de ton repêchage. Est-ce que tout va bien à ce niveau-là?
Oui, je pense que c'est ça. J'avais mieux manqué deux matchs en début de saison pour que ce soit prêt à 100% que peut-être être à 80 puis me reblesser en cours de route. Donc oui, là, c'est à 100%.
Jacob, vous avez la chance cette année d'évoluer dans du neuf, comme on dit. Vous avez un nouvel amphithéâtre qui a ouvert à la fin du mois de septembre. On appelle le Centre Avenir. C'est votre nouveau domicile. 6 victoires en 9 matchs pour vous dans ce domicile-là. Parle-moi des facilités que vous avez. Là. Je pense que vous êtes passé à un autre niveau là, en termes d'amphithéâtre là, au niveau junior.
Oui, vraiment. Juste, si on parle de la chambre, là, c'est vraiment, tu sais, c'est du NHL, nous autres, qu'on dit. Il y a des bains chauds, bains froids. Le gym, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a une cuisine pour nous, il y a un player lounge. Fait que, c'est vraiment des facilités qui nous amènent à être bien puis à performer au max. Là.
Je parlais de ton année de repêchage. Il y a des listes qui commencent à circuler. On voit ton nom quelquefois vers la fin de la première ronde, début de la deuxième ronde. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça devient une distraction pour toi? Les jeunes qui vivent leur année de repêchage, il se passe pas une journée sans qu'un chum, un coéquipier, un journaliste ou quelqu'un vous parle de ça. Comment toi tu composes avec ça, là?
Je dirais que c'est pas mal la même affaire que mon année de 3. C'est un peu la même affaire que le draft de la LHC, j'aime plus au plus grand niveau. Donc, tu sais, je veux pas mettre trop de pression, peu importe. Je veux juste être le même joueur que l'an passé. Puis juste, non, c'est ça. Je pense pas qu'il y a de pression à avoir ou rien. Je veux juste, c'est ça, rester le même joueur.
Est-ce que dans tes objectifs personnels, là, on veut toujours faire mieux? Tu as eu une excellente saison l'an passé. J'imagine qu'on vise plus cette année. Les joueurs disent généralement, ben, je me mets pas d'objectif de termes de points, de buts, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vois, peut-être une saison de 100 points ou des choses comme ça? C'est quelque chose à quoi tu as pensé?
Non, pas vraiment. Je dirais, c'est ça. Je pense que les points, ça va quand tu travailles bien. Puis jusqu'à présent, je pense qu'on travaille bien. Donc, c'est facile de pouvoir récolter des points de même.
Au Québec, on parle beaucoup d'Halifax, on parle beaucoup de Baie-Comeau, on parle beaucoup de Drummondville et de Rouyn-Noranda. Mais là, vous êtes ici, là, vous avez quand même rentré dans le quatuor de tête, si on veut. Vous avez l'impression que les matchs contre Halifax, ça va être âprement disputé, surtout qu'il y a une rivalité déjà de vous deux et surtout aussi que Moncton est en compétition avec Halifax pour obtenir la présentation de la Coupe Memorial qui a finalement été à Halifax. J'imagine que ça, c'est doublement motivant. Là, on aimerait ça être là aussi à la Coupe Memorial à la fin de la saison. Là.
Non, exact. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, déjà en début de saison, on le sent que tu sais, il y a quand même une petite rivalité. Puis je pense que ça a commencé l'an passé aussi parce que les deux équipes ont se battu.
Bon, malheureusement, je pense qu'on a perdu le signal avec Jacob Pelletier. L'entrevue tirait à sa fin. Je ne sais pas si on est capable de le retrouver. On verra dans quelques instants. Jacob nous parlait de la rivalité, effectivement, avec les Moussets d'Halifax, qui est toujours quelque chose de très important là, au niveau des Maritimes, de ces deux gros marchés avec Saint-Jean également et les Moussets d'Halifax là, qui ont finalement amorcé leur saison à domicile en fin de semaine. Après avoir disputé leurs 15 premiers matchs à l'étranger au cours de la saison régulière cette année, on sait qu'il y avait des rénovations là, au Scotiabank Center de Halifax en raison justement de la présentation de la Coupe Memorial. Donc, dans le cas des Mooseheads, c'est évident qu'on a bien parti la saison, mais on regarde les Wildcats de Moncton qui sont également dans la lutte. Jacob, on t'a retrouvé, on ne te retiendra pas trop longtemps,
oui.
Mais juste compléter peut-être sur la rivalité avec Halifax. Les matchs contre Halifax, ça va être doublement important. Là.
Non, c'est ça, exact. Puis surtout que là, je pense qu'on est un ou deux. Donc, c'est sûr que on veut finir premier de notre pool, puis je pense qu'eux aussi, donc c'est ça. Je pense que ça va être une chaude lutte.
Ben Jacob, écoute, on te laisse aller avec ta gang en direction du Cap-Breton. Vous allez arriver là dans quelques heures. Gros match demain contre les Screaming Eagles, qui vont quand même bien eux aussi par le temps qui court. Ils sont replacés un petit peu. C'est pas des matchs faciles. Puis par la suite, en fin de semaine, vous recevez là, les équipes de l'Abitibi là, qui sont de passage à Moncton. En tout cas, Val-d'Or est de passage vendredi. Donc, on va surveiller ça de près. On aura peut-être l'occasion de se reparler. Il y a un match également dimanche, Moncton à Halifax. Alors, ça va être un gros duel. Merci beaucoup, Jacob, d'avoir pris le temps. Bonne route vers le Cap-Breton, puis on te surveille d'ici la fin de la saison.
Merci beaucoup.
Voilà, donc, Jacob Pelletier en direct de l'autobus des Wildcats de Moncton. Je pense que c'est une première. On avait déjà parlé à quelqu'un en deux cours à l'école, mais là, directement dans l'autobus avec un jeune de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un peu ça, hein, sur la glace, notre podcast, notre balado-diffusion. Peut-être pour compléter avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec et ce fameux week-end des rivalités en fin de semaine, Charlottetown a gagné deux matchs contre Saint-Jean. Les Sea Dogs qui continuent de s'enliser n'ont que deux victoires en 16 matchs. Et dans le cas des Islanders, ben, c'est 7 victoires de suite. Alors, ils vont pas très mal non plus, les Islanders de Charlottetown, pour compléter peut-être le tableau dans les Maritimes. Moncton a gagné ses deux matchs contre Bathurst. Halifax et Cap-Breton, on a divisé le week-end des rivalités. Baie-Comeau a battu deux fois Chicoutimi et Québec a battu deux fois Rimouski. Ça, c'était pour les rivalités de la section Est. Dans la section centrale, Drummondville est allé chercher également deux victoires contre le Phoenix de Sherbrooke. Même chose pour l'Armada de Blainville-Boisbriand qui est allé chercher... Non, on a divisé avec Gatineau. Dans le cas de Victoriaville, on est allé chercher une victoire à domicile hier après une défaite à Shawinigan vendredi. Rouyn et Val-d'Or ont également divisé là, ce week-end des rivalités dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une belle formule, honnêtement. Ça fait beaucoup jaser et c'est intéressant là, pendant une fin de semaine de voir que les équipes se déplacent un peu moins pour jouer des matchs. Je vous parlais des Mooseheads d'Halifax. Ils ont complété vendredi leur séquence épouvantable de 15 matchs de suite à l'étranger pour amorcer la saison. Après avoir parcouru 9200 km, ils ont gagné 12 matchs. Ils en ont perdu 3. Leur ouverture locale samedi à Halifax, ils ont perdu ce premier match samedi à la maison contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et là, on va pouvoir souffler un peu dans le camp des Mooseheads, reprendre un peu des énergies parce qu'il y aura beaucoup de matchs à domicile là, pour compenser ce début de saison. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître l'identité de son joueur par excellence de la dernière semaine, Ivan Tchekovic du Drakkar de Baie-Comeau, qui a récolté 8 points en 3 matchs, 5 buts et 3 passes. Dans le cas de Tchekovic, il occupe le 5e rang des marqueurs, 24 points en 16 matchs depuis le début de la saison. Le Drakkar, qui est premier au classement général avec 25 points, un point de plus que Halifax, Rouyn-Noranda et Moncton. Ces quatre équipes ont 16 matchs de jouer. Donc, c'est une belle course là, qui se dessine. Il y a Drummondville qui a 23 points également. Donc, deux points séparent la première de la 5e place au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Petite note en passant, avant de s'en aller avec notre séquence sur la Ligue Midget 3A. Je regardais le dossier des quatre équipes qui ont participé à la Coupe Memorial en mai dernier. On le sait, quand tu vas à la Coupe Memorial, l'année suivante est souvent difficile. C'est le cas du Titan d'Acadie Batters, champion en titre. 3 victoires, 11 défaites, un revers en tir de barrage, donc seulement 3 gains en 15 matchs. Je regardais les Bulldogs d'Hamilton en Ontario, c'est pas si mal, réussissent à jouer pour 500, 7 victoires, 7 défaites et une défaite en bris d'égalité. Et les deux clubs de l'Ouest qui ont participé à la Coupe Memorial, on est en grosse reconstruction là aussi. Les Pats de Regina, 4 victoires, 11 défaites. Et les Broncos de Swift Current, une victoire, 14 défaites. Alors c'est très, très difficile pour ces quatre formations. Et c'est évident que ça, dans le cas du Titan des Caddy Batters, on a de la difficulté à marquer des buts. Le meilleur joueur de l'équipe, Noah Dobson, sera assurément échangé lors de la période des fêtes. Alors, ça va être difficile pour le Titan de se qualifier pour les séries éliminatoires. Présentement, là, si la saison se terminait aujourd'hui, Bathurst et St. John rateraient les séries éliminatoires. St. John a déjà accordé 90 buts en 16 matchs depuis le début de la saison. C'est presque 6 par match en moyenne. C'est difficile un peu là, pour les Sea Dogs de St. John qui n'ont que 2 victoires en 16 matchs depuis le début de la présente saison. Et j'en profite pour saluer, cette semaine, j'ai reçu un petit texto, ça m'a fait plaisir. Jean-Philippe Glaude, recruteur pour les Prédateurs de Nashville, me dit « Tu sais Stéphane, on est souvent sur la route, écoutez votre podcast, ça nous désennuie, c'est intéressant. » Alors j'en profite pour le saluer, il télécharge l'émission, je crois, à chaque semaine. Et en voiture comme ça, ben, vous pouvez écouter sur la glace notre balado-diffusion qui traite de hockey de la Ligue américaine, de hockey junior, de hockey midget. Parlant de hockey midget, je vous disais en début d'émission que les Chevaliers de Lévis ont battu le record de la Ligue midget 3A. Vendredi soir, lorsqu'ils ont vaincu les Estacades de Trois-Rivières, ça leur donnait une 17e victoire consécutive pour amorcer la saison. Le record était de 16, donc on a battu la marque de la Ligue midget 3A qui datait là, de presque 20 ans. Et le lendemain, on a rajouté une 18e victoire de suite en venant à bout là, du Phoenix du Collège Esther-Blondin 4-0. J'ai assisté à ce match samedi à l'Arena de Lévis et j'en ai profité avant la rencontre pour m'entretenir avec Joshua Roy. Qui est Joshua Roy? Ben, c'est l'attaquant qui se profile présentement. Je sais que c'est tôt en saison. Peut-être pour devenir le tout premier choix de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2019. Joshua Roy, qui est une des... je dirais, une des raisons des succès des Chevaliers de Lévis depuis le début de cette présente saison. Lui et ses coéquipiers là, amassent les points là, de façon régulière. Joshua Roy, qui a pris le premier rang des compteurs de la Ligue Midget 3 presque lors du premier week-end et ne l'a jamais abandonné depuis. En fait, depuis le début de la saison, en 18 matchs, il a 19 buts et 21 passes pour 40 points. C'est 6 de mieux que son coéquipier Nicolas Daigle. J'ai réalisé une petite entrevue avec Joshua Roy qu'on vous présente à l'instant. Joshua Roy, premièrement, parlez-moi de votre début de saison. C'est assez phénoménal ce que vous faites en ce moment.
Ah ouais, c'est un début de saison inattendu. On a un méchant bon club. Je pense que c'est tout ce qu'on a fait, tout ce que la semaine, on travaille fort. T'sais, je pense que c'est là que c'est tout mérité. C'est simplement mérité ce qu'on fait.
Est-ce que ça vous surprend un petit peu de vous retrouver avec ce début-là? On savait que vous aviez une bonne équipe, là, mais est-ce que vous êtes un peu surpris?
Oui, c'est sûr qu'on savait déjà le début qu'on avait, on avait du talent dans l'équipe, mais à ce point-là, peut-être un peu moins, mais t'sais, on travaille fort et ça va bien.
Là, vous avez battu le record de la Ligue Média 3 pour un début de saison. Est-ce que c'est quelque chose que vous parliez beaucoup avant que ça arrive?
Non, je te dirais on n'en parlait pas trop. Je pense que on a abordé le sujet quelques fois. C'est normal un peu, mais je te dirais, après la game, on en a parlé un peu, mais sinon, on n'en parlait pas vraiment. On s'occupait de jouer notre game, puis ça allait bien.
On a parlé de votre début de saison d'équipe. Toi, personnellement, de te retrouver premier compteur de la Ligue à 15 ans, comme ça, quand tu arrives. Tu sais, il y a des fois, des joueurs midget 3 ils savent pas trop à quoi s'attendre. Toi, est-ce que ça te surprend, tes performances?
Ouais, ça me surprend vraiment. Tu sais, je pensais pas avoir un début de saison autant de même, mais tu sais, je suis agréablement surpris.
T'expliques ça comment? Ça n'a pas été trop dur, là, justement, au niveau du Média 3?
Non, mais je m'attendais à... Le jeu physique, je m'attendais peut-être à plus un peu, mais je te dirais, c'est pas tant une grande différence avec le Bantam, je te dirais. Tu sais, le jeu est plus vite, c'est sûr, mais tu sais, ça se fait bien, là.
Comment vous vivez avec l'aspect des médias autour de vous en raison de cette séquence-là? Puis toi, personnellement, peut-être aussi, on commence déjà à parler de toi pour le repêchage junior. Comment tu vis avec ça?
Ouais, ben c'est sûr, c'est des distractions, mais en même temps, faut pas y penser. Tu sais, faut jouer notre game, faut pas se mettre de pression avec ça, là.
Faut que tu te prépares à ça aussi. Veux pas, c'est quelque chose que tu vas avoir à composer avec dans les prochaines années.
Ouais, c'est sûr, tu sais, plus que ça en sait, plus qu'il va en avoir, là, c'est normal.
Bon, si quelqu'un t'a jamais vu jouer, tu me parlais quel genre de joueur t'es un petit peu?
Moi, je suis un joueur offensif, je suis capable de scorer des goals. Défensif, je suis bon, mais je te dirais, j'ai une coche au-dessus en offensif.
puis de t'as-tu comme un modèle dans la Ligue nationale, un joueur à qui t'aimerais ressembler sans dire que tu vas être comme lui?
Ouais, moi, Matt Duchesne, je l'aime bien. Je pense que on se ressemble quand même beaucoup. Il a des bons skills puis une bonne vision du jeu.
Le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, c'est loin, mais en même temps, ça passe vite aussi. C'est quelque chose que tu penses déjà?
Non, je pense pas vraiment. T'sais, si je penserais, ça serait une distraction de plus. Fait que j'aime mieux pas y penser. Puis quand ça sera le temps du repêchage, là, je vais y penser.
Comment tu réagis quand dans certains journaux on dit hey, t'as plus de points qu'Alexis Lafrenière au même moment, puis on vend déjà beaucoup Lafrenière?
Ouais, faut pas que j'y pense. C'est sûr, c'est le fun d'entendre ça, mais t'sais, j'y pense pas, là.
T'es un gars originaire de la Beauce, c'est ça? Dans ton coin, j'imagine que c'est quelqu'un qu'on est fier de toi. Là.
Ouais, c'est sûr, le monde en parle, là, c'est le fun.
Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Là? Faut que ça continue, cette séquence-là, puis pour toi aussi?
Ouais, c'est sûr que, tu sais, on y va jour par jour, mais je te dirais que pas mal toute la gang, tu sais, on sait qu'il y a le 25 victoires, fait qu'on essaie de se rendre, c'est sûr qu'on va essayer de se rendre avec 25 victoires.
Donc, vous y pensez un peu?
Ouais, on y pense, mais on n'en parle pas, mais on y pense, oui.
Quand tu regardes tout ce qui se passe avec toi présentement, c'est les meilleurs moments de ta carrière de joueur de hockey que tu vis déjà à 15 ans?
Ouais, c'est des moments inoubliables que je suis en train de vivre en ce moment.
Félicitations, on va espérer que ça continue.
Merci beaucoup.
Alors voilà, le jeune de 15 ans, originaire de Saint-Georges-de-Beauce, Joshua Roy, qui s'aligne avec les Chevaliers de Lévis. Il est présentement le premier marqueur de la Ligue de développement Midget 3. Ça m'a fait sourire un peu parce que les joueurs disent « Oh, on essaie de pas penser au record de 25 » parce que là, on a battu le record pour un début de saison qui était de 16. On est rendu à 18. Mais le record absolu de la Ligue Midget 3, c'est 25 victoires de suite. Ça appartient au gouverneur de Sainte-Foy là, du milieu des années 80. Donc, c'est un record là, qui a quand même plus de 30 ans. Est-ce que les Chevaliers seront en mesure de se rendre à cette marque? Chose certaine, ils jouent leurs 3 prochains matchs à domicile contre le Blizzard du Séminaire Saint-François, les Rivains du Collège Charlemagne et les Estacades de Trois-Rivières. En principe, là, si jamais on ne subit pas de défaite, le 25e match arriverait le vendredi 30 novembre à l'Aréna de Charny, alors que les Vikings de Saint-Eustache seraient les visiteurs si jamais on se rend jusqu'à 25. Il reste encore, évidemment, 7 matchs à gagner. Mais c'est quand même une séquence intéressante. C'est une séquence qui apporte de la publicité également à l'organisation des Chevaliers de Lévis. Dans la région de Québec, souvent, les Chevaliers de Lévis passent deuxième derrière le Blizzard du Séminaire Saint-François. Donc, cette année, les Chevaliers ont vraiment pris la pole. L'entraîneur-chef, Mathieu Turcotte, qui fait du bon travail avec cette équipe-là. On a perdu, malheureusement, un élément important dans la victoire de vendredi. Du côté des Chevaliers de Lévis, il y a un joueur qui est peut-être, c'est tôt à dire, là, qui est peut-être le deuxième meilleur espoir là, pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année, derrière Joshua Roy, qui a subi une blessure quand même assez grave. On parle d'Olivier Nadeau là, qui pourrait rater peut-être un mois et demi, deux mois d'activité. Il était lui aussi très bien parti, 29 points en 17 matchs. Alors, dans quelle mesure ça va faire mal aux Chevaliers au fil des matchs, on verra bien. Chose certaine, c'est une séquence qui est pas mal le fun à surveiller. C'est le fun pour les joueurs, c'est le fun pour la Ligue Midget 3 qui, grâce à cette séquence, obtient peut-être un petit peu plus de visibilité qu'à l'habitude. Alors voilà, ça complète un peu notre balado sur la glace édition numéro 4 de la saison 2018-2019. Je remercie Joshua Roy des Chevaliers de Lévis, Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton, notre collègue Raphaël Doucette également avec qui on a parlé de la semaine du Rocket. Je vous rappelle que vendredi, RDS vous présente le duel Utica-Laval en direct de la Place Belle, match de la Ligue américaine qui va être précédé d'un avant-match de hockey 360 à 18h30 vendredi soir. On sera là pour le match en compagnie de Bruno Gervais. Merci également à Luc Dansereau à la technique. On se retrouve la semaine prochaine.